Radio Kapi. Le journal à la présentation Patience Ngalula Mbombo.
Le président de la République est arrivé à Kalemie dans les Tanganyika depuis hier mardi après-midi. À peine arrivé, Félix Tshisekedi s'est adressé à la population venue nombreuse l'écouter à la place Maïndéléo. Il va présider la 11e conférence des gouverneurs des provinces qui s'ouvre aujourd'hui et les vendredis, il animera la 23e réunion du Conseil de ministres. La chef de la MONUSCO s'insurge contre la publication et la propagation des images des violences faites aux femmes sur les différents réseaux sociaux. Bintou Keïta s'est ainsi exprimée hier à l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour elle, cette pratique viole les règles de la dignité et du respect de l'être humain. Notre invitée est Marie-Josée Ifopou, candidate malheureuse à la présidentielle de 2028, 2018 et 2023. Elle donne son point de vue sur la révision ou les changements de la Constitution. Pour elle, le pays n'a pas de problème des textes, mais souffre d'une crise des leadership et des gouvernances héritées depuis plus de 60 ans d'indépendance. Bonjour. Comme annoncé sur nos antennes, le président de la République est arrivé à Kalemie dans le Tanganyika depuis hier mardi après-midi. Il a été accueilli par le gouverneur et les ministres qui, d'après sa porte-parole, sont déjà sur place. Pour rappel, le chef de l'État va présider la 11e conférence des gouverneurs des provinces aujourd'hui et le vendredi, il animera la 23e réunion du Conseil de ministres. Sachez cependant qu'à peine arrivé, Félix Tshisekedi s'est adressé à la population venue nombreuse l'écouter à la place Maïndéléo. Il est notamment revenu sur la question relative au projet de la révision constitutionnelle. Tina Salama, porte-parole du président de la République, explique les pourquoi de la tenue du Conseil des ministres en province ainsi que l'essence que Félix Tshisekedi accorde à la révision constitutionnelle. Elle est jointe depuis Kalemie par Pele Kipela Mondo.
Le chef de l'État est bien arrivé cet après-midi à Kalemie, où il a été accueilli par la population, mais surtout par les gouverneurs des provinces qui sont pratiquement tous déjà arrivés sur place pour participer, comme vous le savez, à la conférence des gouverneurs qui s'ouvre déjà ce 27 novembre. Alors, il y a également les membres du gouvernement, des ministres donc, présents ici, pour eux participer en tout cas au Conseil des ministres qui se tiendra ce vendredi. Alors le but pour le chef de l'État, c'est de ramener, on va dire, les institutions de la République en province. La démarche étant en tout cas d'étendre l'autorité de l'État et de faire en sorte que toutes les provinces se sentent concernées. Alors ce mardi soir, le président de la République a tenu un grand meeting à la place Maïndéléo devant une foule immense qui est venue l'attendre, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Alors, il a rappelé ses engagements de campagne et a tenu à préciser que, pour ce qui concerne le projet de la révision de la Constitution, la balle était désormais entre les mains de la population parce que lui, le président de la République, ne vise que l'intérêt du peuple et pas le sien.
Le président de la République réaffirme aux chirurgiens son engagement et son ambition à assurer un accès de santé de qualité équitable à tous. Félix Tshisekedi l'a dit hier mardi à Kinshasa à l'ouverture du 5e congrès de la Société mondiale africaine de la neurochirurgie devant plus de 300 neurochirurgiens venus de 86 pays. Placé sous les thèmes « La nouvelle conception mondiale de la neurochirurgie », ce congrès va tracer les contours de la nouvelle chirurgie en Afrique à travers l'échange d'expériences et d'informations entre chirurgiens, identifier les innovations médicales et les défis à relever pour les futurs. Reportage de Jeff Ngoy.
Bâtir un système de santé inclusif fondé sur l'équité et l'excellence. Telle est l'ambition du gouvernement de la RDC rappelée aux congressistes par le chef de l'État.
Permettez-moi de réaffirmer avec force l'engagement de mon gouvernement en faveur d'un accès équitable et universel à des soins de santé de qualité. Qu'il s'agisse des soins primaires ou des services tertiaires les plus spécialisés.
Docteur Dieu Merci Kamboulou, spécialiste chirurgien et secrétaire du congrès, explique les objectifs de ces assises.
Tout ce congrès vise à améliorer les soins que nous offrons à nos populations en République démocratique du Congo. Ça vise aussi à améliorer notre collaboration avec d'autres pays africains.
Selon le docteur Jeff Ntalaja, président de la Société congolaise de neurochirurgie et président de la CANS, il y a lieu de noter que
quelques progrès accomplis dans ce domaine, notamment la solution à la prise en charge des malades sur place au pays à 80% aujourd'hui. Seulement 20% des malades partent encore à l'étranger.
Dans les 8 ans qui sont passés, la RDC a quitté pratiquement ce qu'on appelle les déserts en neurochirurgie pour se retrouver une place sur le plan international. Nous étions cotés parmi les 52e sur 54 pays africains en termes de neurochirurgie. Aujourd'hui, nous sommes parmi les 5 pays parce que nous nous sommes équipés, nous nous sommes formés.
Et puis, à la 6e réunion ministérielle sur les processus de paix dans l'est de la RDC tenue à Luanda, en Angola, la RDC et les Rwanda adoptent le concept d'opération CONOP. Ces documents devra guider la mise en œuvre du plan harmonisé de neutralisation de FDLR. Ces documents facilitera aussi le désengagement des forces de défense du Rwanda. Au cours de cette réunion, le ministre en conclut sur la nécessité de poursuivre le plus rapidement possible les négociations sur les autres aspects du projet d'accord tel que présenté aux parties par le médiateur angolais João Lourenço au mois d'août dernier. Rappelons que les délégations congolaises et rwandaises à ces assises étaient conduites chacune par le ministre des Affaires étrangères. La chef de la MONUSCO condamne la pratique de la publication et la propagation des images des violences faites aux femmes sur les différents réseaux sociaux. Bintou Keïta s'est exprimée ainsi hier mardi à l'occasion du lancement de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Pour elle, la diffusion répétée sur les réseaux sociaux des images d'horreur viole les règles de la dignité et du respect de l'être humain. Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, dans ses propos recueillis par Emmanuel Elamenjoa.
Lorsque nous choisissons de faire partir des vidéos de gens ensanglantés, découpés, est-ce que nous construisons sur quelque chose de positif? Est-ce que nous pensons que montrer des images qui sont des horreurs, ça change la compassion et l'empathie? Quand nous voyons ce qui circule sur les réseaux sociaux et on est content parce qu'on a fait circuler ce genre d'images. Moi je dis, la violence appelle la violence. À quel moment on va se poser la question et se dire on arrête, on fait une pause, on ne fait plus circuler les choses qui montrent la violence? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et les insultes aussi qui arrivent et qui dénigrent les personnes humaines et on trouve ça tout à fait logique et normal? Je dis non. Pour moi, je suis révoltée de voir ce genre de choses. Dans le contexte des droits, du respect des droits, de la promotion des droits, de la dignité, et je reviens encore à la dignité humaine et au respect de l'être humain. Où est-ce que ça va à l'encontre de cette dignité et de ce respect de l'être humain ?
Retenez que pour cette année, le thème de la campagne est intitulé « Vers 30 ans de la déclaration du programme de Beijing, s'unir pour mettre fin à la violence à l'égard de femmes ». Dans la ville de Beni, les élèves de l'école primaire Mukulia et du complexe scolaire Moussaï ont été sensibilisés hier mardi aux notions des bases sur la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Initiée par l'organisation Tendo Laro, cette sensibilisation qui vise à offrir à ces enfants des outils nécessaires pour comprendre cette problématique s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes. Ange Maliro, chargé des communications de cette organisation, revient sur les objectifs de cette activité au micro de Marc Marofimbo.
Les enfants, c'est là où la chose est devenue très difficile parce que les enfants sont en train d'être violés dans les maisons et parfois les parents peuvent les savoir ou ne pas les savoir et parfois les parents sont les seuls responsables de ces viols. Et maintenant, nous avons ciblé les enfants. Il faut que les enfants sachent briser le silence. Si les enfants peuvent dénoncer qu'il y a un mal qui est en train de se faire à la maison, là, ça sera une bonne chose. C'est pourquoi, dans notre programme, on a vu que nous allons voir les enfants et parler avec eux pour essayer de résoudre la question. Les messages clés, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes et brisons le silence, bien sûr, parce que c'est le silence qui est le problème. Si les enfants ont les bagages et ils savent bien qu'ils peuvent avoir le soutien de certaines personnes, en dehors de leur famille, bien sûr, dont nous, Tendolaro et les autres, et ils peuvent dénoncer et briser le silence comme est notre slogan dans ces 16 jours.
L'actualité, c'est aussi la présentation hier mardi à Bounia du prix des Nations Unies pour les droits de l'homme, édition 2023 décernée à Julien Lusenge. La cérémonie visait à motiver les membres de la communauté locale à militer pour la protection des droits de l'homme dans la province de l'Ituri, en proie à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Sadiki Aboubakar pour le détail.
Plusieurs personnes ont pris part à cette activité. Il s'agit entre autres des représentants des associations féminines, des organisations humanitaires, des activistes et défenseurs des droits de l'homme, ainsi que des victimes de graves violations des droits de l'homme qui ont repris sourire grâce aux actions de la SOFEPADI, l'une des organisations à travers lesquelles Julien Lusenge lutte pour la promotion des droits de l'homme. Une des victimes de violences sexuelles, prise en charge par la SOFEPADI, témoigne.
Lorsque j'étais violée, c'est la SOFEPADI qui m'avait accueillie. Ils m'ont soumis à la prise en charge médicale et psychologique. J'étais vulnérable, mais aujourd'hui, j'ai retrouvé sourire grâce à la SOFEPADI.
Le chef des bureaux de la MONUSCO Bounia, présent à la cérémonie, en appelle à l'engagement de la communauté itourienne à travers ses prix, dont la lutte de la lauréate a commencé en Ituri. José Obat.
Ce prix des droits de l'homme 2023 doit également être pour nous tous un appel à redoubler des efforts pour la protection des droits fondamentaux en Ituri et au-delà.
Le gouverneur de la province de l'Ituri a été représenté à la cérémonie par sa conseillère au genre et action humanitaire. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Il est nécessaire de faire comprendre à toutes les parties que la paix est très importante et si nous voulons qu'il y ait la sécurité alimentaire, il faut qu'il y ait d'abord la paix. La déclaration est de la directrice générale adjointe de la FAO hier mardi à Goma, alors qu'elle clôturait sa tournée au nord et au sud Kivu. Madame Beth Bechdol promet de faire ses plaidoyers au niveau du quartier général de son organisation à Rome. À la tête d'une délégation de la FAO, elle dit avoir constaté les conséquences provoquées par la violence et les conflits armés en RDC. Au cours de la conférence de presse qu'elle a animée à Goma avec son équipe, Madame Beth Bechdol a survolé la problématique de la sécurité alimentaire en RDC. Elle est au micro de Sifamaguru.
So what does this mean? This means there
are... Il y a un niveau extrême d'insuffisance de produits alimentaires, un niveau extrême de malnutrition, particulièrement qui touche les enfants et les femmes. Pour la FAO, nous voyons deux aspects où il y a nécessité d'accroître le niveau d'intervention. Le premier aspect, c'est de pouvoir apporter de l'aide pour faire face à l'insécurité alimentaire, particulièrement pour les gens qui sont déplacés ici à l'Est. Nous comptons donc amener davantage de semences pour aider les gens dans ces situations-là sur le plan donc agricole et leur apporter également du bétail, des petits bétails comme de la volaille, comme des lapins, comme d'autres, des chèvres, moutons, pour que les gens soient en mesure de faire face en urgence.
La RDC dans son ensemble compte au moins 25 millions de personnes vivant en insécurité alimentaire, dont 3,1 millions en situation d'urgence, a-t-elle souligné. À Bukavu, la délégation de la FAO a visité plusieurs projets dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et la pêche visant à renforcer la résilience et à réduire la dépendance des populations à l'aide humanitaire. Plus de 1000 agents électoraux sont en formation de 7 jours à Massimanimba en prélude des élections de reprise prévues le 15 décembre 2024. Il s'agit de ceux qui seront de chefs des centres de vote, techniciens, informaticiens, formateurs et autres. Des modules sur les fonctionnements des centres de vote, les fonctionnements des dispositifs électroniques de vote et la transmission des résultats sont développés au cours de cette cascade de niveau 2. D'après les porte-parole de la CENI, l'objectif est de professionnaliser les agents de la CENI pour les élections modèles dans ces territoires de la province du Kwilu. Paul Moindo est au micro de Irène Mbomaluzolo.
La CENI est totalement orientée vers l'organisation des élections que nous appelons les élections de reprise qui sont prévues pour ce 15 décembre à Massimanimba et à Yakoma. Et pour y arriver, nous devons mettre à niveau tout le personnel interne, mais également le personnel que nous avons recruté. On a donc recruté 1213 agents qui vont travailler pendant ce processus et nous venons donc de lasser les deuxièmes niveaux qui va les concerner. Le premier niveau avait eu lieu au niveau de Kinshasa, mais là, nous sommes dans le territoire de Massimanimba, mais au même moment, à Yakoma, la même formation venait d'être lancée, et donc nous formons les agents avec des méthodes beaucoup plus robustes. Cette formation visait à rendre davantage plus professionnels les agents électoraux, et pour cela, les électeurs comme candidats vont constater beaucoup de changements dans le niveau de prestation des agents qui vont travailler le jour de vote.
Sachez enfin qu'un atelier de formation sur l'écriture journalistique s'est ouvert hier mardi à Mwanda, dans le Congo central. Un premier groupe constitué d'une vingtaine de journalistes de cette province prennent part à cette formation organisée par la Division stratégique de l'information publique de la MONUSCO avec l'appui de l'ambassade de France. Le deuxième groupe, composé des journalistes des Kwango, prendront part à cette même formation demain jeudi.
Actualité internationale.
Les Soudans et l'Érythrée consolident leurs liens lors d'une visite officielle à Asmara. Le chef de facto du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah El-Bourhan, a effectué ce mardi 26 novembre une visite officielle en Érythrée voisine. Des discussions ont eu lieu au palais présidentiel pour, selon un communiqué du Conseil souverain soudanais, consolider les relations bilatérales et historiques entre les deux pays.
L'invité.
Débat autour de la révision ou du changement de la Constitution. José Ifoku, candidate malheureuse à la présidentielle 2023, plaide pour la création d'un Conseil national de médiation pour renforcer la cohésion nationale. Dans une interview ce mardi à Radio Kapi, la candidate malheureuse à la présidentielle de 2018 et 2023 estime que la RDC a besoin d'une vraie renaissance afin d'espérer son développement. Pour elle, le pays n'a pas de problème de texte, mais souffre d'une crise de leadership et des gouvernances héritées depuis plus de 60 ans d'indépendance. Marie-Josée Ifoku est l'invitée de Radio Kapi. Il s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Madame José Ifoku, bonjour.
Bonjour.
Quelle perception avez-vous du débat autour de la révision ou du changement de la Constitution?
En fait, pour nous, ce débat est révélateur de l'environnement politique congolais. Alors, quand vous regardez l'histoire politique de notre Congo, nous allons voir que c'est entouré des tensions, voire même tribales, des transitions, des débats politiques qui ne regardent que les politiciens eux-mêmes, en fin de compte. Mais rien n'est tourné vers le peuple ou un développement réel. Nous comprenons qu'à un moment donné, ceux qui sont au pouvoir veulent réviser pour des raisons qui sont leurs. Mmh. Et ceux qui sont hors du pouvoir craignent que derrière cette révision-là, que ceux qui sont au pouvoir veulent demeurer plus longtemps que prévu.
Et au regard de la manière dont le pays est géré depuis 1960, à votre avis, le problème en RDC est-il un problème d'hommes ou des textes?
Bon, définitivement, c'est un problème d'hommes. Parce que les textes, nous en avons. Hein, si vous regardez même la Constitution telle qu'elle est là, même les lois qui existent dans notre pays, les hommes ne respectent pas ces lois-là. Donc c'est un état d'esprit depuis que nous sommes libres. Donc le réel problème, c'est l'homme. L'homme avec un grand H, qui n'a pas appris à respecter les textes, qui n'a peut-être pas compris c'est quoi la constitution d'un État. Mais malheureusement, vous verrez que les hommes sont plus forts que les textes.
Et pensez-vous aujourd'hui que les mêmes acteurs, la même classe politique sera en mesure d'apporter des réponses efficaces à travers un Conseil national de médiation que vous proposez?
Il faudrait que je vous explique pourquoi je propose ce Conseil national de médiation. Vous savez que depuis que nous avons l'indépendance, les politiciens congolais ont toujours recherché des dialogues et nous allons de dialogue en dialogue. Et pour moi, c'est un modèle qui vient de la naissance de l'État indépendant du Congo depuis le 1er juillet 1985. Pour moi, c'est un état d'esprit où c'est le partage du pouvoir. Donc, chaque fois que nous allons de dialogue en dialogue, donc je vous appuie sur ce que vous venez de poser comme question, c'est fait pour l'intérêt des politiciens. Ça n'a jamais été pour un programme réel de développement. Okay? Alors, nous, la proposition que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi une forme de dialogue, mais ce n'est pas un dialogue où tous les politiciens viennent s'asseoir encore, on suspend la gestion de la chose publique. Non. On a trouvé une brèche. En réalisant la Constitution, les débats qu'il y avait autour, je suis tombé sur cet article-là, 222, où j'ai dit, mais à l'alinéa 3, il y a une brèche. qui nous permet de créer une institution d'appui à la démocratie. Parce que la démocratie en réalité dans ce pays, nous ne la connaissons pas vraiment. La démocratie est venue de la tête. Et donc, il n'y a jamais eu une réelle démocratie. Donc, il y a un semblant de démocratie dans notre pays. C'est ainsi que nous, on se dit, on ne peut pas aller à une révolte. Ça ne nous avantagerait pas. Le pays est déjà faible, il est en guerre. On ne peut pas non plus aller à un coup d'État. Moi, je ne crois pas au coup d'État parce que je pense que quand un militaire prend le pouvoir, je ne suis pas convaincu qu'il y aura un changement réel. Donc, c'est ainsi que nous, on a dit, faisons les choses dans un cadre légal qui va nous permettre de réfléchir, de faire entrer tout le monde, pas que les politiciens, pour pouvoir débattre des choses importantes de notre pays. Nous ne pouvons pas nous limiter qu'à la politique politicienne. Parce que ça ne nous permet pas d'avancer depuis 1960.
Est-ce que vous n'êtes pas là en train d'ouvrir une brèche à la classe politique pour trouver l'occasion, une fois de plus, à travers ce Conseil national, de se partager les fonds de la République par des dialogues, des concertations, en lieu et place d'affecter, par exemple, les fonds de la République à des besoins urgents? Aujourd'hui, il n'y a presque plus de routes à Kinshasa.
On en parle peu, hein. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a peu de routes. Depuis, hein, ça, c'est les routes que les Belges nous ont laissées. De fait, j'ai honte de le dire, que le pays était mieux géré sous la colonie. Bien sûr qu'il n'était pas géré pour les intérêts du peuple congolais. C'est honteux de le dire, mais ça reste vrai. Et donc, vous voyez, même si on sort l'argent pour faire des routes, nous suivons régulièrement les détournements qu'il y a. Donc, la solution pour moi n'est pas nécessairement d'aller directement à faire les routes. Ça serait la meilleure des solutions, mais nous voyons très bien que ça semble pas possible. Donc, nous voulons inviter ceux qui sont de bonne foi, ceux qui veulent un Congo dont ils rêvent. Mais ils peuvent pas continuer à garder ça dans leur tête. Le but de notre combat, c'est pas le changement de la Constitution. Parce que changer la Constitution pour la changer, moi, j'ai dit toujours qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Alors, il faut que le leader soit renouvelé, soit changé. Alors là, nous pourrons changer la politique parce qu'elle va appliquer ces lois-là que nous aurons changées. Et donc, du coup, on vivra réellement une renaissance, quoi.
Madame José Ifoku, je vous remercie.
Merci à vous aussi.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal, mis en onde par Billy Landry Betou, sous la supervision et coordination de Pele Kipela Mondo. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.